Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Nous sommes le samedi 18 février et voici un épisode de notre balado Le service politique, enregistré avec Perrine Vasque qui suit l'Assemblée nationale et le Parlement pour BFM TV. Nous l'avons enregistré juste avant la fin des débats sur la réforme des retraites et nous faisons avec Perrine Vasque l'autopsie d'un gâchis. Salut Perrine.
Salut Philippe.
Alors moi je suis au bureau en ce vendredi soir, il est 21h et toi tu es à l'Assemblée nationale. Dernière pause dîner dans les débats pour cette réforme des retraites. Je dis dernière pause dîner puisque quoi qu'il arrive, à minuit, on le savait depuis le départ, à minuit ce soir les débats s'arrêtent, fin de l'examen en première lecture de ce texte retraite à l'Assemblée nationale. On a parlé ensemble dans plusieurs épisodes ces deux dernières semaines de ce qui se passait à l'Assemblée, de l'ambiance et parfois de la mauvaise ambiance. Et on disait, la question c'est de savoir s'ils vont ou pas débattre de l'article 7, de cet article qui permet de passer l'âge légal de 62 à 64 ans. Il reste maintenant 2h30 de débat avant minuit. Et quoi, il y a très peu de chances même qu'ils abordent, qu'ils effleurent l'article 7.
C'est impossible. Là, je pense qu'on peut le dire comme ça parce qu'en fait, même si la France insoumise retirait tous ses amendements, il en reste 150, par exemple, de la majorité avant d'arriver à l'article 7. Et on ne voit pas pourquoi la majorité, pour accélérer elle aussi à son tour après une obstruction qu'il dénonce depuis deux semaines, se mettrait à retirer tous les amendements pour arriver à un article 7 qu'il redoute quand même la majorité puisqu'on commence par un amendement de suppression. Et c'est quand même serré au niveau des voix, donc personne n'est certain du résultat. Donc, je pense que globalement, c'est un statu quo qui va à plusieurs groupes.
Alors, juste une question technique, puisqu'effectivement, on enregistre cet épisode vers 21h. Il y a la reprise des débats dans une demi-heure, et ensuite, il y a 2h30 de débat avant minuit. Supposons même que, comme tu le dis, les amendements tombent sur les articles 3, 4, 5, parce que pour l'instant, ils sont toujours à l'article 2. Et supposons qu'ils passent à l'article 3, à l'article 4, à l'article 5, à l'article 6, et qu'ils aillent rapidement, et qu'ils abordent enfin l'article 7, dans les 2h30 de débat qui va rester, l'examen de l'article 7 commencerait par une motion de suppression, et donc potentiellement un vote assez rapide.
Oui, c'est-à-dire
avec potentiellement une loi surprise.
Voilà, il y a plusieurs amendements de suppression, c'est-à-dire que tu en as à peu près un par groupe au minimum. Les Républicains en ont déposé un, les Insoumis, les Écolos, etc. Et il y a un seul et même vote sur l'ensemble des amendements de suppression. Et certains députés, même LR, me disaient hier que personne ne peut savoir le résultat parce qu'il y a quand même une vingtaine de députés LR qui est arc-boutés sur le vote contre et qui voteront pour la suppression de l'article. Si la majorité n'est pas vraiment mobilisée, s'il y a quelques personnes qui s'abstiennent au Modem, au Horizon, ce qui semble peu forcément vraisemblable. La question qu'on se posait, si tu veux, c'est sur la mobilisation. Est-ce que tout le monde sera mobilisé jusqu'à vendredi minuit? Et très franchement, là, avant 20h, avant la coupure, l'hémicycle était plein. Donc du côté de tous les bancs, on a quand même fait le plein. Une surprise n'était pas... En fait, c'est LR, quoi. Aujourd'hui, LR, il y a 35 députés qui seraient pour, mais là, on voit que c'est en train de se... Voilà, c'est compliqué. En fait, tout est compliqué ce soir, si tu veux. Il y a les Républicains qui nous disent que ça y est, ils ont réussi à toper avec le gouvernement pour cette histoire de carrière longue. Personne ne fera plus de 43 annuités. Matignon, derrière, qui nous dit pas du tout, c'est pas ce qui est prévu. Donc, c'est un peu compliqué, si tu veux. On sent que la tension est maximum, que tout est en attente, mais que, en fait, les vraies négociations elles se font pas vraiment dans le cercle de l'hémicycle, qui est un peu pour le spectacle de la galerie, quoi, si tu veux. Puisqu'on n'avance pas dans la discussion, et ça, ça va être un vrai, vrai problème que va devoir gérer la NUPES après cette réforme des retraites, parce que ce soir, les écologistes viennent de faire un communiqué pour se désolidariser de l'attitude des insoumis en termes d'obstruction. Donc, la NUPES va devoir vraiment régler ses comptes entre écologistes, socialistes, communistes qui, eux, ont retiré tous leurs amendements et la France insoumise qui les a maintenus. Là, cet après-midi, depuis ce matin, depuis deux jours, ce ne sont que des députés insoumis quasiment qui prennent la parole pour défendre les amendements. Donc, si tu veux, le texte, l'avancement du texte et des articles, il peut pas être fait dans l'hémicycle. On est bloqué à l'article 2. Donc, il se fait dans les couloirs entre Républicains et gouvernement, dans les couloirs de Matignon. Voilà, ça se fait ailleurs.
Enfin, là, comme on voit dans l'impasse dans laquelle finalement se trouve ce débat, et tu le suggérais à l'instant, est-ce qu'au fond, il n'y a pas un intérêt bien compris de la plupart des groupes de ne pas avancer et de ne pas aller au vote? Je dis ça, ceux qui vont nous écouter, qui sont soit insoumis ou soit Renaissance ou LR, vont s'indigner qu'on puisse évoquer cette hypothèse. Mais franchement, on comprend bien que la NUPES est divisée sur la stratégie à adopter pour avancer ou pas vers cet article 7. Et quand je dis la NUPES divisée, en fait, c'est les insoumis eux-mêmes qui sont divisés entre eux, entre les proches de Mélenchon et ceux qui souhaitent aller à l'examen de cet article 7, comme François Ruffin, Clémentine Autain, qui sont plus proches de la ligne des communistes, des socialistes et des écolos. Il y a la majorité qui n'a pas forcément envie d'avoir un vote, tu l'as dit toi-même, parce qu'il y a un petit risque, petit, mais il y a quand même un risque de perdre un vote sur l'article 7, et que un vote sur l'article 7, sur le passage de l'âge légal de 62 à 64 ans, si le vote était perdu par la majorité, eh ben, ça mettrait de l'huile dans le carburant de la mobilisation sociale. Donc c'est pas ce que souhaite la majorité. Et puis LR qui est divisé sur la question de l'âge légal et qui ne veut pas exposer ses divisions à l'air libre. Donc il y a une sorte d'intérêt compris où chacun se refile le mistigris de l'obstruction, mais il y a un intérêt de la plupart de ces groupes de ne pas avoir de vote, en tout cas sur l'article 7, je ne parle pas de l'examen, mais de vote sur l'article 7, et c'est pour ça d'ailleurs que Marine Le Pen, c'est avec cet argument-là que Marine Le Pen a justifié le dépôt d'une motion de censure en disant « je propose un référendum démocratique, un référendum parlementaire, je permets l'organisation d'un vote au fond sur cette réforme des retraites qui, sans cela, n'aurait pas connu de vote sur l'élément important qu'est l'âge légal ». Je résume un peu, mais c'est ça.
Et je pense que c'est pour ça que que la France insoumise a fait une erreur stratégique, si je peux me permettre. C'est-à-dire que, en fait, demain, par exemple, donc on sera samedi sur les plateaux, ouais. Qu'est-ce qui sera dit dans les journaux demain matin? Qu'est-ce qu'on va retenir? Qu'à cause de l'obstruction de la France insoumise, le texte n'a pas pu être voté, l'article 7 n'a pas pu être évoqué. C'est ça qui va être vu. Alors qu'en fait, on a pu observer pendant ces débats que la majorité et le gouvernement, dans leur prise de parole, les ministres, n'avaient pas spécialement envie d'avancer très vite. On a vu encore avec l'article... l'article 2, parce qu'on est à l'après-article 2. Dans l'article 2, lorsque la France insoumise supprime d'un coup tous ses amendements, donc elle en supprime 1000, en fait, le vote n'est arrivé que 24 heures plus tard, parce qu'à ce moment-là, on se rend compte que la majorité n'a pas spécialement envie d'avancer. Et d'ailleurs, il y a autre chose un peu assez visible quand on connaît bien l'Assemblée. Tu sais qu'à l'Assemblée nationale, il y a Yaël Braun-Pivet, qui est la présidente de l'Assemblée nationale, qui préside certaines séances, mais pas toutes, parce qu'elle a plein d'autres attributs dans sa fonction. Et la plupart du temps, il y a des vice-présidents, vice-présidentes qui siègent. Ce que j'ai pu observer pendant
parfois.
D'autres groupes, voilà, ça va du Rassemblement National aux Insoumis, à Horizon, etc. Voilà. Ce que j'ai pu observer dans cette semaine, c'est que lorsque c'est Yaël Braun-Pivet qui dirige, eh bien, les débats débordent un peu plus. Il y a un peu plus d'agitation. Alors, on ne parle pas des incidents, hein, quand un député insoumis traite d'assassin le ministre, on n'est pas là-dedans. Mais en termes d'agitation, c'est en fait plus élevé parce qu'en fait, Yaël Braun-Pivet laisse la parole très longtemps à tous les orateurs qui demandent un rappel au règlement qui n'en est pas vraiment un, qui demandent la parole et qui la prend alors que ce n'est pas forcément lié à l'amendement qu'il est censé défendre. Yaël Braun-Pivet laisse la parole longtemps. alors que les autres vice-présidents vraiment appliquent le règlement, et si tu parles de quelque chose qui n'est pas l'amendement que tu dois défendre, on te coupe le micro. Si tu fais un rappel au règlement qui n'en est pas un, on te coupe le micro. J'ai beaucoup vu ça, et lorsque c'est Yaël Braun-Pivet, les choses prennent beaucoup plus de temps. Les prises de parole sont plus longues et plus libres. Donc, tout cela peut nous éclairer qu'effectivement, la majorité, pas tous, parce que tu avais des députés qui voulaient vraiment voter, qui étaient sincèrement convaincus par cette réforme, mais du côté du gouvernement et de la majorité, certains avaient plutôt tendance à freiner. Donc, quelque part, si la France Insoumise avait retiré d'un coup tous ces amendements, ça aurait un peu forcé la majorité à se mettre face à ses responsabilités aussi. Et si... Ça se trouve, il n'y aurait pas du tout eu d'obstruction, mais s'il y avait eu une obstruction plus légère, ou en tout cas une prise de temps, on l'aurait soulevé. Et le résultat demain n'aurait pas été le texte est bloqué par les insoumis. Mais les insoumis assument totalement. Je parlais encore avec un député insoumis cet après-midi. Ils assument, ils ne veulent pas aller au vote. Pour eux, ils sont minoritaires, ils assument ce qu'ils font.
Enfin, deux choses dans ce que tu dis. D'abord, quand tu dis les insoumis, si je ne me trompe pas, je pense qu'il faut, il faudrait dire que
les proches de Jean-Luc Mélenchon
sont divisés. Il y a les proches de Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard, Clémence
Guettet,
Sophia
Figuereau, autres, ceux qui ont
la main sur le groupe, sont sur cette ligne-là très dure, qui a été rappelée, enfin très dure, très ferme en tout cas, qui a été rappelée ce jeudi soir par Jean-Luc Mélenchon dans un tweet, puis dans un discours à Montpellier, qui au fond, c'est à cette occasion-là qu'on a compris que le débat sur l'article 7 ne serait jamais vraiment abordé, puisque au fond que la pression des autres partis de la NUPES ne serait pas suffisante pour faire plier Jean-Luc Mélenchon. Et par ailleurs, il y a chez les insoumis, d'autres qui pensent, et c'était notamment le cas de François Ruffin qui l'a exprimé dans Libération la semaine dernière en disant l'article 7 c'est le nœud de ce texte, c'est ce qu'attendent les Français. Et Clémentine Autain dit la même chose. Et deuxième chose, puisque tu dis il y a la responsabilité du gouvernement, de la majorité, on l'a souligné. En fait, c'est l'un et l'autre, c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas les insoumis qui bloquent, est-ce que c'est les insoumis ou est-ce que c'est le gouvernement. Au fond, il y a une forme de coproduction dans la lenteur ou dans le jeu de position. Et à ce titre-là, il y a quelque chose d'intéressant, il y a un sondage Odoxa qui est publié qui a été publié tout à l'heure, mais je sais pas exactement quand il a été publié, par le Figaro, et qui correspond à peu près d'ailleurs à ce que disait le sondage ELA pour BFM TV il y a deux jours. La question d'Odoxa, c'était qui est le principal responsable de la situation de blocage qui empêche la possibilité d'aborder l'article 7, qui empêche la discussion sur l'article 7. Eh bien, 42% des Français, enfin des sondés en tout cas, disaient que la responsabilité incombe à l'opposition qui a déposé trop d'amendements et a fait de l'obstruction parlementaire. Et 55% des sondés disaient qu'en fait la responsabilité est celle du gouvernement qui a limité le temps de discussion du projet de loi à l'Assemblée nationale. Et c'est exactement ce qu'essaye de démontrer Jean-Luc Mélenchon. J'ai eu un échange assez vif l'autre jour avec lui sur un plateau sur ce point-là, puisque moi je lui parlais de l'article 7, du risque d'obstruction, de passer à côté de ce débat qu'attendent les Français. Et lui me répétait, dites que c'est aussi la responsabilité du gouvernement qui a choisi cette procédure de l'article 47.1, on ne va pas revenir, mais une procédure qui contraint le temps dans une durée très limitée. Et c'est à cause de ce choix du gouvernement que les débats vont s'arrêter tout à l'heure à minuit de façon sèche. Donc c'est aussi ça, et comme tu le disais, qui va jouer demain dans la presse, sur les plateaux de télévision, dans les studios de radio et dans l'opinion, qui est responsable de cet échec collectif. Et d'ailleurs, j'ai entendu tout à l'heure, je lisais les mails que tu m'envoyais, je regardais un petit peu la séance, il y a eu beaucoup les insoumis ont dit mais siégeons la semaine prochaine, puisqu'il y a des vacances parlementaires la semaine prochaine, siéger la semaine prochaine, nous n'avons pas prévu d'aller à Courchevel ou à Megève.
Mais ils n'ont pas abandonné d'ailleurs, parce que là ils sont en train d'observer qu'il y a une procédure dans le règlement, bon je vais passer les détails, c'est complexe, mais qui permet à des députés de demander la réouverture des débats parlementaires sur un texte. Et donc ils sont en train d'essayer de récolter 289 signatures, qui est la majorité absolue, pour réouvrir non pas la semaine prochaine, mais la semaine du 27 février, pour reprendre les débats. Ils n'auront jamais les 289 signatures, parce que la NUPES à elle seule est à 150, même si le Rassemblement National votait, il manquerait toujours des voix LR qui ne vont pas voter cela. Mais ce sondage dont tu parles, c'est exactement ce que Bastien Lachaud, député insoumis, me disait cet après-midi. Lui, il maintient effectivement que pour les Français, ce serait la responsabilité du gouvernement. Et ça, et pour le coup, c'est un fait qu'il ne faut pas nier non plus, bien sûr. Et ça, on en a parlé dans le dernier podcast qu'on a fait ensemble, sur le très peu de temps de débat, parce qu'on dit en fait 9 jours de débat, mais la plupart du temps, ça commençait à 15h, 16h, il y a eu en tout tout 3 jours entiers de débat seulement dans les 2 semaines. Donc c'est vrai que c'est un temps très court. Mais si tu veux, disons que les choses auraient pu se faire un peu différemment. Ils pouvaient déposer des amendements parce qu'eux nous disent c'est des amendements sur le fond, on détaille les financements que l'on souhaite. Mmh. Mais en fait, quand c'est 100 fois la même prise de parole, le même argument qui est développé, ça n'est plus un débat de fond. Et si tu veux, c'est ce que je lui disais d'ailleurs, et c'est ce qui est dommage quand on observe ces débats dans l'hémicycle. C'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai eu et c'est ce que je lui ai dit. J'ai plus l'impression d'avoir en face de moi des gens qui ne se supportent pas, ne se supportent pas, plutôt que des opposants politiques. Oui. Tu vois, tellement que l'invective est montée d'un cran. Et c'est vrai que la façon de faire des insoumis, même s'ils ne sont pas seuls responsables de cette obstruction, tend forcément les nerfs des autres oppositions, mais par ailleurs même de leurs partenaires, parce que ça c'est quelque chose qu'il va vraiment falloir dire. Leurs partenaires ont quand même été relativement bafoués dans cette histoire, parce que eux disaient publiquement qu'ils souhaitaient aller à l'article 7, et les insoumis n'en ont fait qu'à leur tête. Donc certaines prises de parole commencent à être officielles du côté des écologistes ou des socialistes en disant nous on déplore cette stratégie. C'est vrai que la NUPES aura quand même des comptes à régler après cette séquence.
Mais je parlais tout à l'heure avec Léopold Audebert, qui était hier jeudi pour la 5e journée de mobilisation à Albi, dans le Tarn, où les leaders syndicaux venaient. Donc on a fait une émission délocalisée pendant 3 heures. Il y avait Philippe Martinez, Laurent Berger pour la première fois ensemble depuis le début de ce mouvement social, pour la première fois ensemble sur un plateau au milieu d'un rond-point. Enfin, c'était assez fort. Et Léopold, qui était sur place, me racontait qu'il a passé donc plusieurs heures à parler avec des manifestants, certains syndiqués, certains qui ne le sont pas, et que beaucoup lui ont parlé spontanément de leur agacement, voire de leur colère, de ce qui se passait à l'Assemblée nationale, d'une impression de gâchis, au fond, d'un décalage entre ce qui se passe dans la rue, d'un mouvement social large, massif, même si les 2 dernières journées de mobilisation ont rassemblé moins de monde, mais vraiment un mouvement assez massif en nombre, sur la durée, soutenu par l'ensemble des syndicats, tout l'incertain syndical, soutenu massivement dans l'opinion. On le voit sondage après sondage, il y a plus de 2/3 des Français qui sont contre cette réforme, de façon très stable, et un mouvement au fond assez serein, assez décidé et paisible, et à côté un débat à l'Assemblée nationale, et sans revenir sur qui est responsable de quoi, mais un débat à l'Assemblée nationale qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu, pas à la hauteur de ce qu'attendent les Français, pas à la hauteur au fond aussi du moment dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'on demande aux Français potentiellement de travailler 2 ans de plus, donc ça mériterait un vrai débat à l'Assemblée nationale sérieux. Et il racontait une impression de gâchis. Voilà. Je sais pas ce que toi t'en penses, vu de l'Assemblée nationale où t'as passé 15 jours en tribune. Qu'est-ce que t'en penses de ces décalages avec la rue?
Tu sais, et je pense que tu es bien placé pour savoir que j'aime pas les raccourcis que parfois on fait, parce que c'est vrai que c'est un spectacle, sur les débats de l'Assemblée nationale. Parce que très souvent, il y a du fond, même dans cette législature, et qu'ils ont réussi d'ailleurs ces derniers mois, souvent, à voter des lois à l'unanimité ou à se mettre d'accord, etc. Mais là, j'ai presque envie de dire, mais moi, je peux plus les défendre, en fait. Parce que c'est vrai que les débats sont pénibles à suivre, parce qu'en fait on ne parle pas de fond, si tu veux. Dès lors que on parle toujours des depuis 2 jours, les débats sont sur l'après article 2, donc sur comment on peut financer un système de retraite. Donc pour la NUPES, c'était important d'insister là-dessus pour montrer leurs différences de financement, taxation super profit, on réintroduit l'ISF, etc. Mais on entend ça 1000 fois. Après, il y a eu quand même à des moments des pressions qui ont eu des avancées dans le débat, notamment les pressions sur les 1200 euros. Qui aura le droit de les toucher? Les députés, notamment de la NUPES, ont posé, mais pas que, hein, les Républicains aussi beaucoup, ont posé des dizaines et des dizaines de fois cette question au ministre sur les bancs, en disant, dites-nous combien de personnes vont percevoir cette pension 1200 euros. Ils sont même allés, pour certains, au Parti Socialiste, au ministère de la Santé et des Affaires Sociales pour vérifier les chiffres, etc. Donc par moments, ça a des avancées parce que ça force un petit peu les ministres à sortir de leur zone de confort et effectivement d'annoncer des chiffres qu'ils n'avaient peut-être pas forcément envie d'annoncer maintenant. Enfin, il y a eu des avancées dans le débat sur certaines choses. Mais globalement, c'est vrai que... On s'invective plus à savoir qui est le plus légitime à défendre les Français qui souffrent que, bon, ok, comment on fait pour faire avancer le schmilblick. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas du tout un pays de compromis et que aujourd'hui, moi, avec ces bancs que j'ai en face de moi, parce que les insoumis, effectivement, font du bruit, sont très véhéments et puis c'est effectivement, par moment, et je comprends, assez énervant d'avoir 10 fois, 20 fois le même amendement qui revient et que les débats n'avancent pas. Mais les autres groupes sur les bancs, la majorité notamment, elle le fait différemment, mais c'est tout aussi par moments désagréable. Hein. Donc c'est un dialogue de sourds, il n'y a pas de compromis. Et là, on se dit, le problème, c'est est-ce qu'on passe 5 ans comme ça?
Mais voilà, pour tout dire, le premier jour, qui était donc lundi en début de semaine dernière, lorsqu'il y a eu les premières heures de discussion de ce texte, il y a eu très vite une motion de rejet, une motion référendaire, enfin bref, c'était très vif, très vite. Et on a eu une discussion assez animée en plateau sur BFM TV, où plusieurs des intervenants réguliers de BFM TV que vous avez l'habitude de voir disaient « Mon Dieu, quel spectacle désolant !» Et moi, je défendais plutôt une ligne inverse, où je disais on n'est pas des petites natures, on connaît l'histoire parlementaire, on connaît l'histoire de la Troisième République, et il y a d'autres textes de la Cinquième République qui ont été tout aussi animés, et on pourrait parler, moi je me souviens des débats sur le mariage pour tous, qui était extrêmement violent également.
Exactement.
Et j'ai utilisé une expression qui était, ils ne sont pas là pour boire le thé entre bonjour madame, merci madame, et ça m'a amusé parce que quelques jours plus tard dans Libération, j'ai entendu Jean-Louis Debré, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien président du Conseil constitutionnel, qui est en quelque sorte le petit frère de la Constitution, puisque son père, Michel Debré, a rédigé la Constitution de la Ve République, qui disait ça, qui utilisait cette expression « on n'est pas là pour boire le thé », et au fond, qui replaçait les débats qu'on a pu observer ces derniers jours dans un contexte plus large d'une histoire parlementaire extrêmement vive.
Et donc, cette interview avait été très repris du côté de la gauche, d'ailleurs, qui en a beaucoup parlé.
Je crois toujours à ça. Je crois qu'il faut. Moi, j'ai pas de problème à ce que l'Assemblée nationale soit le reflet de rapports de force parfois brutaux qui existent dans la société. Et c'est le choix des Français d'avoir envoyé à l'Assemblée nationale des députés sans majorité absolue claire d'un camp. Et en même temps, tout ça, on le savait en fait avant le début de l'examen. Et en même temps, je trouve qu'il y a une occasion ratée. Et c'est pas seulement du fait des insoumis, même si les insoumis ont une part de responsabilité importante, mais une occasion ratée collective de montrer, de prouver à un moment donné que certes il y a de l'agitation, certes il y a parfois des moments explosifs, mais il y a aussi des moments de fond, et il y a aussi à un moment donné le respect qui est dû aux Français et qui sont majoritairement contre cette réforme, un respect élémentaire d'aborder l'essentiel de ce qui intéresse les Français dans cette réforme, c'est-à-dire la question du passage de l'âge légal. Au fond, que les 577 députés n'aient pas le respect minimum d'aborder, ne serait-ce que d'effleurer, le fait que les Français vont devoir peut-être travailler 2 ans de plus. C'est exactement ce qu'attendaient les Français, qu'il y ait un débat là-dessus. Qu'ils soient pour ou contre la réforme, ils attendaient un débat là-dessus. Et qu'il n'y ait pas eu, ne serait-ce que... Enfin, on va voir ce soir, mais il y aura peut-être quoi, 2 heures de débat maximum là-dessus. Et encore, ça sera peut-être 20 minutes. Et je trouve ça un peu triste. Et je pense que c'est une forme de gâchis, de déception collective. Évidemment, les insoumis ont une part de responsabilité, mais pas seulement. Il y a, comme tu l'as dit, il y a une part de la majorité, une part des LR, une part des autres partis de la NUPES. Enfin bref, je trouve que c'est une sorte de gâchis collectif. Voilà. Mais bon, ça n'est qu'on est.
Oui, c'est dommage parce que en fait, les compromis qu'ils savent trouver sont souvent très peu médiatisés. On en parle peu. Et puis cette fois-ci, où, tu sais... c'est vrai qu'on est aussi dans une législature où les députés ont... pour la plupart, et notamment insoumis, là je dirais même pas NUPES, je dirais vraiment insoumis, n'ont pas de culture parlementaire. On est vraiment avec des individus qui sont avant tout des militants d'une cause, et pour cela ils sont respectables, quelle que soit leur cause, on a le droit de croire en la cause que l'on veut, et qui vraiment se battent pour montrer cette cause, pour défendre cette cause. Mais avec peu d'histoire institutionnelle derrière eux, parce que c'est pas forcément leur ADN, etc. Et donc qui sont un peu effectivement en représentation permanente, c'est-à-dire qu'on sent quand même cette intrusion des réseaux sociaux aussi très fortement, où chaque député souhaite prendre la parole pour pouvoir montrer qu'il a bien défendu.
Oui,
il y a cette obsession chez les insoumis de défendre coûte que coûte, de montrer qu'il s'oppose. Et je pense que à des moments, c'est peut-être nouveau dans notre... parce que ça fait quand même... le dernier mandat, l'Assemblée nationale était quand même une chambre d'enregistrement avec une majorité absolue pour le président. Ça a été quand même ça les quinquennats d'avant, même si c'était parfois bouillonnant. Mais ils ont apporté quelque chose dans l'opposition où c'est vrai parfois que par leur bruit et leur fureur, les gens se disent « Bon, il y a des gens qui s'opposent maintenant. » Voilà. Même dans l'Assemblée, on a des gens qui s'opposent. Et ça, c'est quelque chose qu'ils portent très, très fièrement. Ce qui est dommage, en revanche, c'est qu'on ne s'oppose pas assez sur le fond en avançant. C'est-à-dire qu'ils auraient pu faire ce qu'ils ont fait, à défendre leurs idées pas à pas, même en déposant sans amendement par article. C'était possible et ça suffisait, on avait compris l'idée. Mais on continuait à avancer dans le débat. Et là, ce qui est dommage quand même, et peut-être un échec pour la démocratie, c'est qu'en fait, on se rend compte que, pour reprendre ce qu'on disait au tout début, il y a peut-être trop de monde dans cette histoire qui ne voulait pas aller au vote. Mais pourtant, c'est dommage, parce que le vote, c'est quand même la démocratie. Et être minoritaire, eh bien, ça fait partie de la démocratie. Vous avez beau vous battre, si vous êtes minoritaire, quel que soit votre rang, vous êtes minoritaire et vous perdez. Et on a quand même un peu, derrière tout cela, l'impression que la démocratie, on essaye de la tordre un peu, et du côté du gouvernement qui fait passer dans un texte très court, très codifié, avec très peu d'heures de débat. Et puis aussi du côté de l'opposition, où on n'a même pas envie d'avancer pour débattre des articles. Donc c'est peut-être elle la grande perdante de l'histoire.
Bon, Périne,
on entend la sonnerie, les débats vont reprendre.
Je vais te laisser, mais puisque tu as parlé du bruit et la fureur, tu as peut-être lu le roman de Faulkner, mais je vais citer, puisque ça vient de Shakespeare, Macbeth, cette phrase dans Macbeth, « La vie n'est qu'une ombre qui passe ». Un pauvre acteur qui se pavane et s'agite durant son heure sur la scène et qu'ensuite on n'entend plus, c'est une histoire dite par un idiot, pleine de bruit et de fureur et qui ne signifie rien.
Bah écoute, je pense que
merci Périne.
C'est une belle conclusion pour nos débats.
Merci Périne.
De rien. À bientôt Philippe.
Salut. Merci d'avoir suivi cet épisode et d'être nombreux à suivre ce balado. À bientôt.